Vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Sur la couverture de la bande dessinée, un jeune homme, casquette sur la tête, sacoche en bandoulière, au milieu d'un groupe d'hommes gris chargés de bagages qui se dirigent vers leur destin. Lui est tourné dans l'autre sens et son sourcil levé lui donne l'air un peu étonné, comme s'il était surpris, voire effrayé, du baiser fougueux de son amoureuse. Sur la droite de la page, un policier français des années 40, moue dubitative et œil soupçonneux, et en dessous, le titre « L'œil du STO ». STO comme service du travail obligatoire, trois lettres de sinistre mémoire qui nous replongent dans la Seconde Guerre mondiale et dans la France de la collaboration. Et quand on referme l'album, eh bien on a compris que ce titre est au moins à triple sens, parce qu'il y a l'œil du personnage principal, Justin, œil qu'il s'est volontairement abîmé pour tenter d'échapper à son sort. Il y a l'œil de la culpabilité, l'œil de Cain en quelque sorte, et puis il y a l'œil des autres, le regard qu'à l'époque et qu'aujourd'hui encore, les contemporains de Justin, quelle que soit leur génération, porte sur son destin et sur le choix qu'il a fait. Mais avait-il le choix, justement? C'est toute la question que pose ce récit sobre et sombre, en noir et blanc, au dessin Nadar, au scénario Julien Frey. Il est publié chez Futuropolis et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Julien Frey.
Bonjour.
Le personnage principal, qui s'appelle donc Justin, n'est pas à proprement parler un personnage fictif, c'est...
C'est le grand-père de ma femme. C'était le grand-père de ma femme.
Donc c'est une histoire réelle, un peu romancée, j'imagine, mais que vous racontez.
Un peu, mais pas tant que ça, finalement. C'est son histoire à lui et puis à elle, puisque c'est aussi l'histoire de sa femme. Je me suis beaucoup servi de ce que m'ont raconté ma femme et sa mère.
Mais pourquoi justement aller jusqu'à raconter son histoire en bande dessinée? C'est pas votre premier album de BD, mais jusqu'à présent vous étiez pas du tout aventuré sur ce genre de territoire-là.
Un petit peu déjà une fois, parce que j'avais raconté l'histoire de la grande tante de ma femme, qui était la sœur de Justin. Mais là, il se trouve que moi, j'ai découvert cette histoire quand on me l'a raconté, et j'étais assez surpris de savoir déjà que dans la famille de ma femme, on savait très peu de choses sur le STO, puisque Justin n'avait rien raconté. Donc déjà, j'étais un peu curieux d'en savoir un peu plus. Et puis, j'ai commencé à chercher et je me suis aperçu que finalement, il n'y avait pas grand-chose sur le STO, en tout cas en matière de fiction. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas trouvé de fiction, même le roman, bande dessinée ou cinéma, qui racontait le STO de l'intérieur. À chaque fois, c'était bizarrement des histoires de réfractaires, c'est-à-dire de résistants en puissance.
Mais Justin, justement, n'avait rien raconté à sa famille. Vous n'avez pas pu vous baser sur son propre récit, même indirect, sur des notes, sur des lettres, sur des photos, que sais-je?
Il a laissé des traces. Il a raconté à sa manière. C'est-à-dire que déjà, le fait de dire qu'il ne voulait pas en parler, que c'était son année noire, ça trahissait déjà un certain sentiment de culpabilité. Après, il a aussi laissé des notes, parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup faire des listes. Alors, pour moi, ça m'a été très, très utile, mais il n'y avait pas toujours l'essentiel, c'est-à-dire que il faisait des listes dans lesquelles il expliquait, par exemple, le jour où il part Gare de l'Est, il explique ses horaires de train, des choses comme ça. C'est des choses qui m'ont permis ensuite de faire des recherches historiques, mais il n'y avait pas tout. Malheureusement, j'avais pas son témoignage.
Alors, le point de départ de l'histoire, c'est le départ à la retraite de Justin. Alors, pour sa pension, il lui faut comptabiliser ses années de travail, et là, il va prendre une position très nette.
Ah oui, c'est qu'il veut pas se servir de cette année dans ses points de retraite. Il veut pas que ce soit comptabilisé. Il a cette possibilité-là de faire valider cette année de travail en Allemagne chez AEG, et il le veut pas. Et ça fait partie des anecdotes qui m'ont été racontées par sa fille. Et là, je me suis dit, j'ai le point de départ de mon histoire en fait, parce que ça trahit ce sentiment de culpabilité, le fait quand même qu'il renonce. Qu'il ne veuille absolument pas en entendre parler, pas en profiter en fait.
Et l'on sent effectivement tout au long de l'album que pendant toute sa vie il a été extrêmement taiseux sur cette période, il n'en est pas fier, c'est le moins qu'on puisse dire. Pendant toute sa vie d'après, on sent qu'il a porté le poids de cette année noire-là sur les épaules, et on le sent notamment dans cette scène qui se trouve dans la toute dernière partie de l'album, quand il se trouve en Guyane, dans une voiture conduite par sa fille Chantal. Nous sommes page 178 de l'album.
Après une semaine en pleine nature, Chantal et moi sommes chargés de faire le plein à Cayenne.
Maman m'a dit que tu t'étais remis à la boxe.
C'est l'autre qui a commencé.
Et il a appuyé là où ça fait mal.
Voilà. J'ai lu le bouquin de Cavana.
Ah oui ?
C'est un bon livre.
Vous n'aviez pas le choix, papa.
Un peu, quand même. 600 000 gars. On aurait pu, je sais pas.
Tu savais que Brassens était un ancien STO, lui aussi ?
Tu fais la liste des STO célèbres ?
Mais non. Il s'est caché à Paris, comme toi. Attends, je me suis trompée. Bordel !
J'aurais pu prendre le maquis, entrer dans la résistance.
Mais tu n'étais pas volontaire, papa. Le STO était obligatoire.
D'autres l'ont fait.
Mais tu n'étais pas volontaire.
Se battre au lieu de cirer les pompes des Allemands.
Tu n'étais pas volontaire.
Pour un salaire de misère ? Qu'est-ce que tu fais ?
Tu n'étais pas volontaire. Dis-le.
Quoi ?
Dis-le.
C'est ridicule.
Dis-le, papa !
Je n'étais pas volontaire.
Et il le dit en baissant les yeux et sans grande conviction. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On mesure dans ce dessin de Nader toute la détresse du personnage, même si effectivement, Julien Frey, il se raccroche à des personnages célèbres. Alors on a entendu là dans l'extrait, Cavana, qui a écrit les Rouskov. Hein.
Oui, oui. C'est-à-dire que le STO, aujourd'hui, quand les gens se souviennent de ce qu'était le STO, souvent, ils vont citer les STO célèbres. Et finalement, c'est une façon un petit peu de résumer très vite cette problématique par la célébrité. Alors, il y a Cavana, il y a...
Cavana, il s'est coupé l'index gauche pour essayer d'échapper justement à son sort, et ça n'a pas particulièrement marché. Quoi.
Oui, pour obtenir...
Cinq jours d'arrêt de travail.
Un peu de repos. Je ne sais pas s'il a obtenu ce qu'il souhaitait, mais effectivement, il y avait la mutilation, l'automutilation, à un moment donné, était très, très, très importante parmi les STO. Mais il y a Cavana, mais il y a aussi, on a parlé il y a quelques années de Georges Marchais, mais c'est toujours comme ça qu'on aborde le STO. C'est un petit peu dommage, en fait, avec la polémique de Marchais il y a quelques années. Est-ce qu'il avait été volontaire?
Marchais, ancien secrétaire général du Parti communiste.
Hein. Oui, voilà. Et il y a quelques années, on a dit que Marchais avait été parti volontairement. Alors, ça... On en reparlera tout à l'heure, mais c'est parce qu'en fait, il est parti avant la loi qui obligeait les gens à partir, mais il n'était pas volontaire non plus.
Voilà, et puis donc il y a Georges Brassens qui, pour rendre hommage à la dame qui l'a accueilli à Paris, dans le 14e arrondissement de Paris, impasse Fleurimont, alors qu'il avait fui le STO, comme votre personnage, a donc écrit et chanté cette chanson, ça s'appelle « Jeanne ».
Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille, dans son cœur en se poussant un peu, reste encore une petite place. La Jeanne, la Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve assouvi pour la vie, par la façon qu'elle le donne, son pain ressemble à du gâteau et son eau à du vin comme deux gouttes d'eau. La Jeanne, la Jeanne, on la paie quand on peut des prix mirobolants, un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs, un semblant d'accord de guitare, l'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. La Jeanne, Jeanne.
Jeanne est la voix de Georges Brassens dans VMDN sur RFI. Bonjour Raphaël Spinard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex d'Aix-en-Provence grâce aux bons soins de nos confrères de France Bleu Provence. Vous êtes historien, professeur agrégé à l'université d'Aix-en-Provence et vous êtes notamment l'auteur chez Perrin en 2017 d'une histoire du STO et vous signez la postface de cet album de bande dessinée signé Julien Frey et Nadar chez Futuropolis, L'œil du STO, que vous nous présentez, je cite, comme la toute première bande dessinée consacré au service du travail obligatoire. Alors on entendait tout à l'heure ensemble Julien Frey, on a vraiment l'impression, et je voudrais que vous nous confirmiez ça, que le STO est encore aujourd'hui largement tabou, que ce soit dans les témoignages et dans la fiction.
Tabou peut-être pas, mais relativement relégué au second plan, ça ne fait aucun doute. Il a fallu très longtemps pour qu'il soit abordé dans les médias et cette émission n'est que la quatrième ou cinquième depuis 1945 à aborder le STO sur les ondes françaises.
Ah oui.
Ça en dit long.
C'est incroyable. Comment vous expliquez ça?
Alors, entre autres, parce que le STO est plus connu que ses victimes et qu'il n'a pas été suffisamment traumatisant et suffisamment exceptionnel. L'opinion publique se préoccupe des destinées extrêmes de certaines minorités. Que ce soit les résistants, les collabos, les juifs, ce sont des gens qui ont vécu des choses absolument hors du commun. Mmh. Mais à chaque fois, c'est 1 ou 2% de la population.
Oui.
Les prisonniers de guerre, ils se sont surtout ennuyés en Allemagne. Ils n'ont pas grand-chose d'intéressant à raconter. Et puis, après 1945, ils sont tous revenus vivants ou presque. Ils étaient le symbole de la défaite. Ils n'avaient pas grand-chose de plus à raconter. Les STO, bah, ils rappelaient qu'il y avait eu un État français à collaborer à l'envoi forcé de main-d'œuvre en Allemagne. Et puis, ils paraissaient plutôt des anti-héros malchanceux, des losers presque. Et on avait plutôt besoin, en 1945, non pas de victimes, mais de héros et de combattants pour pouvoir se regarder en face et se dire que la France avait quand même, malgré tout, eu ses héros et ses résistants.
Pourtant, Raphaël Spina, beaucoup de familles françaises ont été de près ou de loin concernées par le STO. Est-ce qu'on a un moyen d'évaluer justement le nombre de personnes impactées?
Oui, entre 600 000 et 650 000 victimes. Tout ça en un laps de temps extrêmement bref, puisque l'essentiel des départs au travail obligatoire se passe entre octobre 1942 et juillet 1943.
Donc c'est extrêmement réduit.
Ah oui. C'est une crise d'une extrême brutalité et la plupart des gens, comme Justin, se sont retrouvés emportés par un torrent contre lequel personne, ni la résistance, ni la population ne pouvait rien.
Alors essayons d'être assez pédagogique, Raphaël Spina. Déjà, comment le STO est né? C'était quoi l'objectif?
Alors à l'origine, en 1940, l'Allemagne nazie demande seulement des volontaires en France. Et le régime de Vichy n'est pas très chaud. Et même le commandement militaire allemand en France n'est pas très chaud, puisque faire de l'Allemagne nazie un pays d'immigration, ça paraît quand même un peu bizarre. Et qu'on se demande dans quelle galère iraient se mettre les volontaires. Il y a d'ailleurs eu assez peu de volontariat français en proportion de la population. 200 000 à 250 000 personnes ont été volontaires en 4 ans, ce n'est pas énorme par rapport à d'autres pays. Et en plus, le volontariat chute en 1942, au moment où l'Allemagne a de plus en plus besoin de main-d'œuvre. Début 1942, l'Allemagne est en guerre désormais à la fois contre les États-Unis, l'Union soviétique et l'Empire britannique. À ce moment-là, elle est mathématiquement battue d'avance. Elle se bat à 1 contre 4 en termes d'hommes, de main-d'œuvre et de ressources matérielles. Il lui faut donc remplacer ces millions de soldats mobilisés par une main-d'œuvre non plus seulement volontaire mais forcée qu'elle va recruter par tous les moyens dans toute l'Europe. Et dans le cas de la France, qui est quand même le principal pays de réserve de main-d'œuvre qualifiée, eh bien, le gouvernement de Pétain et Laval est justement prêt à tout pour séduire les Allemands et va proposer de lui-même la main-d'œuvre. Mmh. Et puis ensuite, vu qu'il n'y aura jamais assez de volontaires, la première loi du 4 septembre 1942, puis celle du 16 février 1943, vont désigner d'office les volontaires, c'est-à-dire passer à la réquisition forcée. Et non sans résultat, l'Allemagne n'a pas perdu la guerre à cause du manque de main-d'œuvre ou de matériel, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle a tenu jusqu'en 1945, beaucoup plus tard que prévu, parce qu'il y a eu ces réquisitions massives de main-d'œuvre, entre autres.
Mais donc il y a eu deux types de STO, le STO volontaire et le STO requis, on peut différencier les deux?
ne dites jamais ça à un des derniers anciens du STO. Hein.
Oui.
Non, non, il y a un volontariat où il peut y avoir des pressions, mais qui est quand même dans l'ensemble une démarche libre. Alors certes, la liberté est un concept tout relatif, tout comme le consentement ou la volonté. Il y avait quand même, en 1940, après la défaite, 1 million de chômeurs en France. Les étrangers et les femmes ont été mis à la porte en priorité par les lois de Vichy. Les Allemands ont parfois aussi, tout comme l'État français, fermé des entreprises en espérant que la main-d'œuvre libérée allait s'engager volontairement pour l'Allemagne. D'autres fois, ils ont augmenté le temps de travail. Mais ceux qui partent volontairement, ben, ce n'est pas des collaborateurs, sauf une infime minorité. C'est des gens qui n'ont plus de travail, c'est des marginaux sociaux, parfois d'anciens délinquants, c'est des femmes et des étrangers qui sont réduits au chômage, c'est des manœuvres qui peuvent gagner plus en Allemagne qu'en France. Et la plupart d'entre eux n'ont aucune conscience politique particulière. Ils ne voient pas la différence entre travailler pour les Allemands en France ou travailler pour les Allemands en Allemagne. Puisque toute l'économie française, d'une manière ou d'une autre, directement ou pas, travaille de toute façon pour l'Allemagne. Et ensuite, il y a une réquisition qui, là, pour le coup, est vraiment forcée. Mais l'ambiguïté, c'est que, sauf rares exceptions, les requis n'ont pas été raflés sur place, dans les usines ou à leur domicile. Ils ont reçu des convocations, ils n'avaient que 48 heures pour obéir, souvent aucune alternative matérielle, souvent peur, pour eux, pour leur famille. Ils ne savaient pas où aller ni trouver quelqu'un pour les aider à temps, et ils ont suivi le mouvement.
Oui, alors ça, c'est toute la question, effectivement, de la liberté. Est-ce qu'il avait le choix, pour vous, Justin, Julien Frey? Il avait le choix, il aurait pu faire autre chose, il aurait pu prendre le maquis, aller dans la clandestinité et...
Bon, Justin, il avait 20 ans au moment où on lui demande d'aller en Allemagne. Est-ce qu'il avait le choix? C'est une question de philo, ça. Est-ce qu'on a le choix?
C'est difficile, en plus, avec le regard d'aujourd'hui, évidemment, de juger. C'est peut-être pas un risque, d'une certaine façon.
Bon, moi, j'essaie de me mettre à sa place. À 20 ans, souvent, on obéit à ses parents, déjà. Ensuite, dans un contexte comme celui-ci, c'est quand même très, très particulier. C'est-à-dire qu'il y avait une propagande qui expliquait quand même qu'il fallait y aller et que si on n'y allait pas... on risquait de la prison, donc fallait avoir en soi de quoi désobéir. Et puis la résistance, le maquis, c'est bien beau, mais je suis pas sûr que la résistance accueillait tout le monde. Et parmi les jeunes de 20 ans, est-ce qu'ils étaient tous utiles dans la résistance? Est-ce que ça aurait pas été des poids aussi? Qu'est-ce qu'il aurait eu à faire ou pu faire? Je ne sais pas, mais pour moi, la réponse est assez simple. Je pense qu'il avait pas le choix.
Et c'est vrai qu'il y avait aussi la propagande, et vous parlez évidemment de la propagande dans cet album, qui passait par l'affichage, mais qui passait aussi à l'époque par les films projetés dans les salles de cinéma. Extrait.
L'Allemagne est devenue le gigantesque chantier de l'Europe en guerre. Pour intensifier le vertigineux effort industriel que lui impose cette guerre sans précédent, ce pays a dû demander à toutes les nations du vieux continent de lui fournir la main-d'œuvre dont elle a besoin. Cette main-d'œuvre réunit déjà plus de 10 millions de travailleurs, recrutés sous tous les ciels d'Europe. Dans certains camps, appartenant à de grandes entreprises, et où on a fait de sérieux efforts pour rendre plus supportable la vie en commun de tous ces travailleurs, l'hygiène, notamment, fait l'objet de mesures rigoureuses. Les vêtements des travailleurs sont passés à l'étude dès les premiers jours. À midi, le repas est pris en commun au réfectoire du chantier ou de l'usine. Dans cette usine, 12 marmites calorifugées assurent les repas de 4000 personnes. Les aides-cuisiniers sont des Italiens. Le chef cuistot est marseillais. Les plongeuses sont des Russes. Dans les camps, d'ailleurs, le problème de la lecture a été lui aussi l'une des principales préoccupations. Des bibliothèques ont été mises à la disposition des ouvriers. Certaines sont assez bien achalandées.
Bon, on pense vraiment à tout, hein, visiblement, à en croire ce film de propagande, à Raphaël Spina. Comme ça, a l'air doux et agréable d'aller travailler en Allemagne en comparaison de ce que Julien Frey et Nadar nous racontent dans leur bande dessinée. Bon, on a bien compris, effectivement, qu'il s'agit d'un film de propagande, mais c'est important de s'arrêter là-dessus pour expliquer peut-être un peu l'atmosphère de l'époque et l'état d'esprit de Justin quand il part travailler en Allemagne. En fait, du point de vue de la propagande, on insiste à la fois sur la dimension collaborationniste et sur la dimension nationaliste. Il faut être fier, finalement, quand on part travailler en Allemagne.
Tout à fait. Cela étant, tous les rapports de préfets et la plupart des témoignages sont unanimes. La propagande était extrêmement inefficace, contrairement à ce que l'on croit. Et la plupart des Français ne s'expatriaient qu'avec une totale réticence. Les actualités, elles étaient souvent huées, sifflées. La presse collaborationniste, son tirage n'a jamais arrêté de s'effondrer. Les affiches, elles étaient souvent lacérées ou badigeonnées de tracts et de graffitis hostiles. En réalité, la propagande n'a qu'un impact très mineur pour expliquer les départs. Ce qui compte beaucoup plus, c'est la présence allemande. Plus il y a d'Allemands dans une zone, plus les gens obéissent parce qu'ils ont peur. Et Paris, d'où part Justin, est très contrôlé. Le Nord-Pas-de-Calais est très patriote, mais il obéit. La Lorraine, même chose. Alors qu'en zone sud ou dans les campagnes, on désobéit beaucoup plus facilement. On a moins peur. Ensuite, on parlait tout à l'heure du maquis. Il faut mettre en garde contre une idée reçue. Le maquis n'a accueilli qu'un quart des réfractaires au STO, peut-être même moins. Pourquoi ? D'abord, au moment où le maquis commence à apparaître comme un enjeu, en mars 1943, il y a déjà 500 000 travailleurs qui sont partis. La grande majorité des victimes sont déjà parties avant que le maquis émerge. Et à ce moment-là, le maquis, c'est seulement quelques milliers de personnes. Au grand maximum, 40 000 à la fin de l'année 1943. Et les trois quarts des réfractaires au STO, où est-ce qu'ils vont se cacher ? Dans des fermes. Parce que c'est beaucoup plus facile. Dans une ferme, il y a jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de fermes par département à l'époque. Personne ne va fouiller 30 000 ou 50 000 fermes pour aller retrouver un réfractaire par-ci, par-là. Mmh. Et les paysans ont toujours besoin de main-d'œuvre. Donc en réalité, le maquis n'a accueilli que très peu de réfractaires. Et de toute façon, la résistance n'avait pas les moyens, comme il a été dit, de les accueillir davantage. Le maquis, à l'origine, la résistance ne l'a absolument pas prévu. Même alors, la résistance communiste.
Alors, effectivement, c'est une précision importante parce qu'on ne pense pas effectivement à cela. Julien Frey, il y a aussi un autre argument que vous développez dans votre récit. C'est la dimension, on va dire, réciprocité. Autrement dit, c'est la fameuse affiche de propagande. Vous avez la clé des camps. Autrement dit, travailleurs français, vous allez travailler en Allemagne. Et en échange, l'Allemagne va libérer des prisonniers et revenir en France. Et il y a comme ça une sorte de jeu. Hein, parmi les autorités de Vichy, qui jouent un peu les familles les unes contre les autres. Quoi. Si votre fils part travailler en Allemagne, le mien, il va pouvoir rentrer.
Oui, alors ça, c'est la... Je ne sais pas si Raphaël sera d'accord avec moi, mais moi, j'appellerais ça la première phase du STO, c'est-à-dire que là, on est dans le cadre de la relève.
La relève, voilà.
C'est-à-dire que les ouvriers partaient, dans ce cas-là, volontairement, et en retour, les Allemands renvoyaient des prisonniers. Il me semble qu'entre ce qui avait été dit et ce qui a été fait en termes de retour de prisonniers, une grande différence. Et puis, pardon, quelle était votre
question ? Non, parce que dans la bande dessinée, il y a une scène comme ça, où il y a effectivement
c'est-à-dire
Justin
que
qui, dans son café, puisqu'il est garçon de café, se retrouve face à un père.
Un père face à une affiche, justement, qui fait de la propagande pour la relève. Et Justin n'a pas du tout envie d'y aller. Et il se retrouve à côté d'un père qui a son fils prisonnier. Donc, effectivement, ils n'ont pas le même point de vue sur la question. Et Justin, à ce moment-là, explique qu'il a aucune envie d'aller travailler en Allemagne, et quand il sera quelques mois plus tard obligé d'y aller, il n'en aura toujours pas envie, mais il ira parce que finalement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre à ce moment-là.
Mais donc son fils lui a risqué sa vie pour ce père-là, et ouais. Donc il essaie de convaincre Justin de partir, et il a un peu l'impression, et c'est ce qu'il lui dit d'ailleurs, que Justin, si vous partez pas, ça veut dire que vous êtes un planqué.
Oui, voilà. Mais ça c'est tout l'art de la propagande, c'est diviser un pays. La population était divisée forcément, parce que certains, justement, il y a eu des cas de dénonciation de jeunes planqués à Paris, et pourquoi ? Parce que la propagande avait bien fait quand même son travail. En tout cas, on faisait passer ces jeunes pour des lâches.
Oui, Vichy a réussi à diviser les familles, Raphaël Cernat ? Spina ?
Oui, disons que les divisions, Vichy ne les a pas inventées, ni les Allemands, ils ont surfé dessus. En 14-18 déjà, les paysans en avaient beaucoup voulu aux ouvriers en disant « Nous, on a été massivement tués au front, alors que les ouvriers étaient souvent maintenus à l'arrière dans les usines de guerre ». Même chose en 1939-1940. Quand Pierre Laballe invente la relève, c'est pas son idée à la base, hein, c'est quelque chose qui était souvent demandé dans la société française, que les ouvriers partent pour faire revenir les prisonniers paysans. Et ça a été unique en Europe, ce contrat qui servait à dorer la pilule avant de passer à la réquisition, qui était de toute façon inévitable. Et c'était trois ouvriers spécialistes partent pour un paysan qui rentre. Sauf que sur les quelques 100 000 personnes à être rentrées comme ça, toutes n'étaient pas des paysans. Et comme il n'y a que les ouvriers spécialistes qui comptent, en fait, il fallait faire partir jusqu'à 6 ou 7 personnes pour faire rentrer un seul. Et en attendant, effectivement, les familles étaient souvent jalouses les unes des autres. Et on constate constamment dans les témoignages que les Français étaient assoiffés d'égalité devant le fardeau. Si votre fils ne part pas, pourquoi le mien alors ? Et si les ouvriers partent, alors pourquoi pas les paysans ou les employés ou les fils de bourgeois ? Il y avait une sorte de frénésie à vouloir l'égalité dans la servitude.
Je vais vous raconter une histoire arrivée à Nana et Jules en gueule d'acier. Et pour vous raconter ça, il fallait d'une java. J'en ai fait une pâtée, écoutez-la. Mais je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout. Mes couplets ne riment pas bien, mais je m'en fous. Le grand Julon et Nana sur un air de java. Parce qu'on lui rompe le musette sur un air de javette. Elle lui dit j'ai le béguin sur un air de java. Il répondit tant mieux sur un air déjà vieux. Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est le plus pâté java. Ils partirent tous les deux comme des amoureux à l'hôtel meublé du fou nerveux. Le lendemain, le grand Julot lui dit je t'ai dans la peau et lui botta le bas du dos. Elle lui dit j'ai compris, tu veux de l'argent chérie, j'en aurai à la sueur du nombril. Alors elle s'en alla sur un air de java, boulevard de la Chapelle sur un air de javel. Elle se vendit pour de l'or sur un air de javor, à 3 francs la séance sur un air de jouvence. Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est la plus pâtée java. Julon pense dans ce temps, ayant besoin d'argent, mijotait un vol extravagant. Il chipa, lui Julon, une rame de métro qu'il dissimula sous son paletot. Le coup était bien fait, mais juste quand il sortait, une roue péta sous son gilet. Alors on l'arrêta sur un air de java, mais rouge de colère sur un air de javert. Dans le ventre du flic, sur un air de javic, il planta son eustache sur un air de jeune vache. Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est la plus pâtée java. Nana ne sachant rien, continuait son turbin. 6 mois se sont passés un matin. Elle rentre à la maison, mais elle a des frissons. Elle s'arrête devant la prison. L'échafaud se dresse là, le bourreau qui ne s'en fait pas fait le coup près à la pâte Omega. Julon vient à petits pas sur un air de java. C'est lui qu'on guillotine sur un air de javine. Sa tête roule dans le panier sur un air de javier. Et Nana s'évanouille sur un air de javouille. C'est idiot. Ah, 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 ah. Écoutez ça, c'était chouette.
Georges Duce, c'est la plus batte des java, hein, des airs de bal. Il y en a quelques-uns, hein, dans l'album qui rythme votre récit. Julien Franc, on est vraiment dans l'esprit du Paris de l'époque, hein, avec l'accordéon, les bals musettes et Justin qui, comme tant d'autres garçons, emballe les filles sur les pistes de danse.
Oui, oui, oui. Enfin, il emballe surtout René.
Voilà, René. Alors, présentez-nous René, parce que René, elle travaille en face du café dans lequel Justin est garçon de café. Donc, dans le 15e arrondissement, le café s'appelle Le National et elle travaille à l'imprimerie nationale.
Oui, oui, oui. Et ça, c'est quelque chose que ma femme et sa mère m'ont beaucoup raconté. C'est-à-dire que, en fait, quand Justin travaillait au National, il voyait toutes les ouvrières sortir de l'imprimerie. Et il y en avait une qui l'appelait la jolie de l'imprimerie, et c'était René. Et René aimait danser, aimait faire la fête, et la famille de Justin voyait pas forcément d'un bon œil qu'il se rapproche de cette femme. Et quand ils ont appris qu'en plus elle était déjà mariée, là ils avaient vraiment toute la famille contre eux.
Oui, ça c'est important effectivement que c'est une femme mariée, parce que tout de suite les rapports changent. On voit très bien que, pas tellement entre eux, hein, parce que bon, il y a une vraie histoire d'amour, mais on sent que pour l'ensemble de la société, c'est quelque chose de difficile.
Oui, c'est quelque chose que j'avais envie de raconter aussi. C'est une histoire d'amour, mais c'est un amour que j'ai trouvé moderne. En tout cas, par rapport à la vision que j'avais du couple à l'époque. Mais voilà, donc ils ont vécu à la colle. Apparemment, ils étaient nombreux à l'époque déjà. Et voilà, elle était mariée, elle est restée mariée 2 mois. Et elle a vécu 2 mois avec son premier mari. Elle est partie, elle est rentrée chez sa mère, mais elle est restée mariée quelques années. Et Justin est passé au-dessus de ça. Et ce couple, c'est ce que raconte aussi l'album, c'est que c'est un couple qui avait un peu tout contre lui au départ. Et finalement, ils ont tenu bon.
Qui a réussi à
malgré l'histoire, malgré les familles,
les familles, malgré le contexte de l'époque aussi. Voilà, Raphaël Spida, c'est pas si habituel que ça, j'imagine. À l'époque, dans cette période de révolution nationale, de vivre un amour avec une femme mariée.
Non, et l'ordre moral vichiste n'avait pas forcément beaucoup d'impact sur la population qui gardait quand même son autonomie de jugement et de comportement. Par ailleurs, les trois quarts des victimes du STO étaient célibataires, mais un certain nombre d'entre elles, l'exil a brisé des amitiés, des amours, des fiançailles et parfois des mariages. Le taux de divorce en 1945 a explosé avec les divorces des prisonniers ou des STO qui ne reconnaissaient plus les personnes qu'ils avaient quittées et inversement. Là, leur amour a parfaitement survécu à l'épreuve et c'était un très bon signe.
Oui, les femmes d'ailleurs sont extrêmement présentes dans votre récit, hein, Julien Frey. Il y a René, il y a la mère de Justin, il y a sa sœur qui s'appelle Odette. Dans la dernière partie du récit, donc il y a la fille qui s'appelle Chantal. C'est quand même très souvent aussi à travers les yeux des personnages féminins que l'évolution de Justin se découvre.
Vous avez raison. Alors je le fais pas volontairement, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans mes scénarios. Et c'est peut-être aussi une vision que j'ai du monde où je constate autour de moi que souvent les femmes aident les hommes à tenir bon. Nous, on nous apprend à être forts et sûrs de nous, et on l'est pas tant que ça. Et quand je regarde autour de moi, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de René, en fait.
Il y a beaucoup de René, parce que voilà. C'est vrai que René, c'est l'une des héroïnes de l'album, en fait, en réalité. C'est aussi grâce à elle, grâce à son soutien, grâce à son amour, grâce à ses yeux, grâce à sa force, à sa ténacité, que cet album peut bien se terminer.
Oui, alors c'est pas elle qui permet à Justin de revenir, mais c'est elle qui l'accompagne, qui le soutient, et peut-être qui le guide, et aussi peut-être qui le permet de pas sombrer quand il va pas bien, effectivement, quand le poids de la culpabilité est trop lourd, elle est là.
Alors il y a les femmes, il y a aussi quand même quelques hommes comme les compagnons de STO de Justin qui au départ lorsqu'il arrive en Allemagne va travailler dans une usine de locomotives et il y a notamment un personnage truculent, excessif, amateur de chansons un peu lestes.
Paillarde.
Voilà que Justin avait d'ailleurs raconté à Paris quand il était garçon de café, il s'appelle Maurice Pouillot. Vous pouvez nous présenter ce personnage, Julien Frey?
Pouillot, c'est effectivement quelqu'un qui travaille à l'imprimerie nationale et le point de départ est réel, c'est-à-dire que sur les fameuses petites fiches de Justin, il y avait marqué pendant qu'il était en Allemagne qu'il devait retrouver un employé de l'imprimerie nationale que connaissait René. Après, évidemment, j'ai fait mon travail de scénariste, je me suis inspiré de plusieurs témoignages, de choses variées. Mais oui, Pouillot, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas à Justin. Et j'avais envie de raconter ça dans les témoignages que j'ai lus sur le STO. J'ai remarqué que c'était un peu comme le service militaire, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient mis ensemble, qui venaient d'univers différents, de régions différentes, de pays différents, et socialement pas forcément habitués à vivre ensemble. Et Pouillot, c'est un peu ça. Il y a aussi Baselis qui est assez raciste et qui a des propos assez durs. Mais voilà, j'avais envie de montrer que c'était des jeunes gamins qu'on avait mis ensemble. Et Pouillot, ouais, il en tient une bonne couche quand même.
Et donc Justin, Pouillot, Lecoin, leurs autres compagnons vont vivre l'enfer du camp du Henningsdorf en Allemagne, la promiscuité, l'absence d'hygiène notamment. Nous sommes page 78 de votre album Dehors, il neige.
Première nuit. C'est horrible, oh putain.
Oh, ah, c'est quoi? Oh la vache!
Saloperie, punaise!
Qu'est-ce que vous foutiez, bordel?
Il y a des punaises partout.
Vous voulez que j'en parle au Lagerführer?
Oui. Dites-lui qu'on ne peut pas dormir.
Tu peux pas dormir?
Non.
Tu peux pas dormir? Voilà, le petit français commence à comprendre. C'est pas un hôtel, ici.
Pour éliminer les punaises, la seule solution serait de brûler nos paillasses. Alors à partir d'aujourd'hui, on oublie les livres.
Voilà, un exemple parmi d'autres, hein, des difficultés et des mauvais traitements aussi. On a entendu le coup de poing, les punaises, l'absence d'hygiène, les maladies, la promiscuité, les humiliations aussi de l'encadrement allemand rue des sadiques. Ça, c'est vraiment le quotidien de Justin au STO. Julien Frey, comment alors, vous avez reconstitué tout cela?
En lisant des témoignages d'anciens STO, puisque Justin n'avait rien dit là-dessus. Après, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les violences des Allemands, ça dépendait aussi des camps. Il y a aussi des STO qui ont été envoyés dans des familles allemandes qui se comportaient très bien, chez qui ça s'est bien passé. C'est-à-dire que il y a eu différentes façons de vivre le STO, vraiment. Ça dépendait un peu dans le camp dans lequel vous tombiez. Après, ce qui me semble assez récurrent dans tout ce que j'ai pu trouver, c'est que les conditions d'hygiène étaient quand même très mauvaises, qu'on leur avait dit qu'on allait les payer une certaine somme, qu'ils étaient payés beaucoup moins, qu'on leur avait dit qu'ils allaient faire un travail dans une certaine mesure et qu'ils travaillaient beaucoup plus. Et puis surtout, il y avait une situation très étrange qui était que on les traitait toute la semaine comme des ouvriers, enfin qu'on faisait travailler énormément, et le week-end, ils avaient le droit de se promener, ils étaient libres. C'était pas des prisonniers, les STO. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une ambiguïté. C'est le week-end, ils allaient au théâtre, ils allaient se promener à Berlin. Et du coup, je pense que le sentiment de culpabilité, il y a une séquence dans laquelle ils sont dans Berlin, ils sont dans une brasserie en train de boire un café, comme s'ils étaient en vacances. Ils avaient le droit de se promener, je sais plus si c'est 50 km ou 100 km à la ronde du camp. Alors, ils n'avaient pas le droit de prendre le train et de rentrer en France. S'ils se faisaient arrêter, ça allait mal. Mais ils avaient quand même une certaine liberté le week-end.
Alors justement, Raphaël, c'est vrai qu'elle est très étonnante, cette scène où ils se baladent, hein, effectivement, dans le Berlin de l'époque. Raphaël Spina, est-ce qu'on peut dire que les STO se considéraient dans leur tête comme des prisonniers?
Oh oui, ils utilisaient très souvent la comparaison dans leurs lettres et dans leurs chansons ou leurs conversations. Après la guerre, par contre, ils n'ont plus été attachés au titre de déportés du travail, mais vu que le terme de déporté avait pris le sens d'être envoyé dans un camp de la mort, les anciens des camps de concentration ont obtenu en justice l'interdiction de ce titre. Ça a été 60 ans de dispute au Parlement et en justice. Les anciens STO en ont gardé beaucoup d'amertume. Et il est vrai que comme ils n'étaient pas considérés comme des sous-hommes au même titre que les Polonais et les Soviétiques, les STO étaient beaucoup moins maltraités. Ils n'avaient pas d'uniforme, pas d'insigne spécifique. En cas d'amour avec une Allemande, ils ne risquaient pas grand-chose, alors qu'un Polonais ou un Soviétique aurait été pendu ou déporté immédiatement en camp de concentration. Et ils n'ont pas été si bien payés que ça, mais ils ont quand même envoyé près de 10 milliards d'économies à leur famille en France. Ce n'est pas négligeable.
Oui.
Les rations étaient quand même un peu meilleures qu'en France, même s'il pouvait arriver que la nourriture soit exécrable dans un bon nombre de camps. Beaucoup de camps étaient certes insalubres et infestés de punaises, mais c'était pas forcément qu'on voulait les faire souffrir, c'est qu'il y avait eu un tel afflux de main-d'œuvre que les autorités allemandes étaient tout simplement dépassées et ne pouvaient pas assurer des conditions décentes.
En revanche, les conditions de travail,
les bombardements.
Oui, les conditions de travail étaient particulièrement rudes, puisqu'on raconte qu'un certain nombre de gens ont tout fait, y compris jusqu'à la mutilation, pour essayer d'y échapper.
C'est exact. Mais ce dont se plaignent très souvent les STO dans leurs témoignages, c'est de la lenteur des cadences. Les horaires sont très longs, mais les cadences sont plus lentes qu'en France,
oui.
Au point qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils font ici. Donc ils s'ennuient, c'est du bord à haute, si on peut dire. Après, effectivement, ces usines étaient bombardées, elles pullulaient de maladies, elles étaient très surveillées, donc au moindre geste suspect ou à la moindre suspicion, c'était potentiellement jusqu'à la peine de mort ou l'envoi dans des camps. Et au total, entre 25 000 et 35 000 STO n'ont quand même pas survécu. 95% sont certes rentrés vivants, mais enfin, pour une minorité, ça a été terrible.
Et puis certains sont envoyés en AEL. Alors, oui, l'AEL, c'est un autre sigle. Ça signifie quoi, AEL, Raphaël Spina?
Arbeitserziehungslager, camp de rééducation par le travail, des camps assez oubliés qui ressemblent en tout point aux camps de concentration. Mêmes conditions de vie et de mort et même mauvais traitement épouvantable, mais on y est enfermé pour un temps limité, minimum 3 semaines.
Les fortes têtes
tous ceux qui ont déplu à un moment ou à un autre, ceux qui ont été accusés à tort ou à raison de fainéantise, de sabotage, de paroles de contestation, ou alors s'ils se sont disputés avec un Allemand, par exemple. Et au moins un millier de travailleurs français sont morts dans ces AEL. Les autres en sont sortis, mais ils revenaient à leur lieu de travail, la tête rasée, maigre à faire peur, visiblement traumatisés. Interdiction de dire quoi que ce soit. Et les autres camarades comprenaient tout de suite qu'il fallait filer droit si on ne voulait pas finir dans ces lieux terrifiants.
Voilà, et certains des personnages de la BD ne reviennent pas, hein, Raphaël Spina. Et tout ça, vous nous racontez tout cela avec des mots très simples, très sobres. La narration joue un rôle majeur, peut-être plus d'ailleurs que les dialogues en eux-mêmes dans l'ensemble de la bande dessinée. Des mots qui accompagnent ce dessin en noir et blanc de Nadar, un dessin très sobre, qui joue beaucoup sur les clairs-obscurs, qui joue aussi beaucoup sur les silences. On a presque l'impression dans cet album que les silences, les blancs, sont plus importants que les mots.
Oui, ben merci. C'est volontaire, effectivement. J'aime bien ces séquences muettes où il se passe quand même quelque chose, une tension. Moins il y a de dialogue, mieux je me porte, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression que c'est important pour le lecteur de profiter du dessin et de ressentir sans lire des fois. Et ça colle aussi au sujet, c'est-à-dire que le silence, voilà. Enfin, et Justin était un taiseux, donc ça colle aussi au personnage.
Oui, mais Nadar joue beaucoup sur ce noir et blanc, il joue aussi sur les clairs-obscurs, sur les différentes nuances de gris. Comment vous avez travaillé tous les deux? Parce qu'il a fallu justement qu'il traduise en dessin ce que vous ne pouviez pas en quelque sorte faire dire à travers les mots, à travers les bouches de vos personnages.
En fait, c'est le deuxième album qu'on fait ensemble. Alors on s'est découvert sur le premier. C'était déjà un album en noir et blanc, mais avec un traitement moins contrasté. Et puis on travaille beaucoup parce que lui il est à Barcelone, donc on échange tous les jours. Maintenant ça doit faire 3 ans qu'on s'envoie des mails peut-être tous les jours, qu'on Skype aussi. Maintenant on joue un peu le scénario devant nos ordinateurs. Et on s'est habitué à travailler ensemble. Et pour vous répondre plus précisément sur comment on fait, moi j'écris mon scénario comme un scénario. Je viens de l'audiovisuel en fait, donc un peu comme un scénario de cinéma. Et je lui laisse la mise en scène. Il y a des scénaristes qui décrivent un peu case par case. Moi j'aime pas du tout ça. Je préfère lui laisser la mise en scène et puis il le fait beaucoup mieux que moi, donc je vois pas. Et après on discute. Est-ce qu'une séquence mériterait d'être un peu plus longue, un peu plus lente, un peu plus courte? Est-ce qu'il faut... Je suis assez pénible sur la réécriture des dialogues parce que justement, ben, vous dites que certaines séquences sont muettes, mais plus il précise son dessin, plus on retire des dialogues. Et les séquences dont vous parlez sont celles que je préfère parce que c'est celles où on voit moins le scénario aussi.
Et c'est vrai que la rythmique joue énormément hein, dans votre narration, dans la façon dont nous lecteurs on peut appréhender le vécu de vos personnages, que ce soit à Paris ou en Allemagne. Merci beaucoup Julien Frey.
Merci à vous.
Je rappelle que l'œil du STO que vous signez aux éditions Futuropolis a été mis en dessin et donc mis en scène, comme pour reprendre l'expression que vous venez d'utiliser, par Nadar. Merci également à vous, Raphaël Spina. Je rappelle que votre histoire du STO est disponible aux éditions Perrin et je remercie également nos confrères de France Bleu Provence qui nous ont permis de vous avoir en direct et en duplex du sud de la France.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
Et si on retombait en enfance avant de se quitter, rappelez-vous, vous l'avez peut-être lu quand vous aviez 7 ou 8 ans, c'est un classique de la littérature jeunesse, Sacrée Sorcière de Roald Dahl, paraît maintenant en bande dessinée chez Gallimard BD et c'est l'autrice des culottés Pénélope Bagieux qui presque 40 ans plus tard a décidé de revisiter le roman à sa façon. Notre reporter Fanny Blechner nous replonge dans cet univers si particulier.
Vous les imaginiez le teint verdâtre, affublé d'un chapeau pointu, volant sur un balai? Détrompez-vous. Ce n'est pas comme ça qu'on repère les sorcières dans l'œuvre de Roald Dahl, nous rappelle Pénélope Bagieux. Leur crâne est chauve, donc elles se grattent la tête parce que les perruques les grattent. Elles ont des gants
pour cacher le fait qu'elles ont des serres d'oiseaux à la place des mains. Elles n'ont pas de doigts de pied, elles ont les pieds carrés, donc elles ont une démarche un peu bizarre. Elles ont la salive bleue, donc leurs dents sont légèrement teintées. Et surtout, elles ont des narines retroussées qui papillotent parce que l'odeur des enfants les dégoûte. Elles trouvent que les enfants sentent la crotte de chien et donc elles reniflent les enfants partout.
Elles les reniflent car elles veulent les exterminer. C'est ce que découvre par hasard le héros, un petit garçon qui, aidé de sa grand-mère, va tout faire pour les empêcher de mener ce projet à bien. S'ensuit une succession de péripéties que Pénélope Bagieu a pris particulièrement plaisir à mettre en image.
Du début à la fin, c'est une longue scène d'action. Ça n'arrête pas, ça cavale, ça saute, ça explose. C'est un film d'action presque, avec des choses hyper visuelles, des personnages très très vivants, très expressifs. En fait, c'est vraiment l'idéal à adapter en BD, quoi.
Et l'autrice de BD a tenu à respecter le ton de Roald Dahl.
Je voulais que ça reste aussi cruel, parce que je me rappelle que c'est ce qui me plaisait dans les livres de Roald Dahl. C'était l'impression qu'on ne me parlait pas comme à une débile, et qu'on me disait, tu sais, dans la vraie vie, ça finit pas toujours bien. Mais je voulais que ça se termine de manière un petit peu moins triste et un petit peu moins solitaire pour le héros.
C'est la famille Dahl qui a proposé à Pénélope Bagieu de mettre en bande dessinée l'œuvre de son choix. Cette lecture l'avait marquée enfant et elle a tenu à y mettre aussi un peu d'elle, notamment à travers le personnage de la grand-mère.
Il y a une sorcière moderne, puissante et affranchie du pouvoir et autonome dans mon livre, c'est la grand-mère. C'est-à-dire qu'elle est complètement à la marge de la société. On voit pas vraiment de traces d'homme dans sa vie. Elle est complètement affranchie du pouvoir. Elle réfute l'autorité. Elle fume dans les lieux publics. Elle s'en fout. Et puis en même temps, elle est très forte. Elle a son savoir à elle, qui est complètement décrié par la société, mais elle s'en fiche. Elle fait son truc. Elle est très droite dans ses bottes. Et elle inspire énormément de réconfort et de force à son petit-fils. Et donc, ma grand-mère à moi, elle était plutôt comme ça. Elle aimait beaucoup les imprimés qu'elle mariait avec plus ou moins de réussite. Et elle sentait très fort le parfum, elle avait plein de bagouses, elle prenait trop le soleil, donc elle était toute fripée. Et pourtant, pareil, même si elle était toute petite, j'avais l'impression qu'avec elle, il pourrait jamais rien m'arriver.
Elle s'est aussi permis quelques libertés.
Effectivement, il y avait un personnage qui, moi, m'avait jamais trop intéressé dans le roman. Donc, je l'ai dégagé, en fait, voilà. Et je l'ai remplacé par un personnage que moi j'aurais aimé voir dedans, donc en l'occurrence une petite fille, qui est très bon cœur, qui soit très courageuse, qui soit drôle, qui apporte vraiment quelque chose à l'histoire, auquel on puisse s'identifier, qu'on soit un garçon ou une fille.
Une démarche essentielle pour elle.
Je trouve qu'on a une responsabilité quand on fait un livre pour enfants, c'est qu'on peut très très tôt donner des mauvaises représentations de genre qui vont commencer à contribuer inconsciemment à constituer un imaginaire. Et donc j'ai lutté contre ça moi-même consciemment en me disant, avant de dessiner une femme de ménage qui hurle et qui monte sur une chaise quand elle voit une souris, est-ce que c'est vraiment indispensable que ce soit une femme? Est-ce que vraiment c'est obligé d'être une femme? Et puis par exemple, ça me paraissait impensable aussi aujourd'hui de faire un livre sur les sorcières qui s'adressent aux enfants sans leur faire un petit pas de côté pour leur parler des persécutions qu'ont vécues les femmes pendant des siècles parce qu'elles étaient érudites et autonomes et que du coup elles faisaient peur au patriarcat et que du coup elles ont été persécutée et brûlée, donc c'était important pour moi. Assez vite, j'ai demandé si c'était possible de faire une petite parenthèse historique pour quand même dire aux enfants, attention avec le mot sorcière. Donc comme ça, c'est fait. J'ai planté cette petite graine.
Le résultat est une bande dessinée drôle, trépidante et intéressante.
Reportage de Fanny Blechner pour VMDN, une pause et l'info qui reprend ses droits sur RFI. Et puis justement, on va se retrouver demain pour parler des sorcières, précisément avec deux romancières, Isabelle Sorante pour Le complexe de la sorcière chez Jean-Claude Lattès et Stéphanie Janicot pour Le réveil des sorcières chez Albin Michel. On aura donc l'occasion de revenir sur le mot sorcière et sur l'évolution du sens de ce mot à travers les âges. À demain donc, et vous m'en direz des nouvelles.
Pelle sur l'actualité.